Avant de commencer, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur notre pouvoir d'interdire ou de permettre. La loi française interdit, mais à l'heure du village mondial, on prend le Thalys pour aller faire des mers porteuses à Bruxelles, ou l'Eurostar si on les préfère britanniques, et ça ne pose aucun problème particulier. Les annonces américaines, les petites annonces sont pleines de propositions de mers porteuses, de préférence ayant déjà eu un enfant de moins de 30 ans, ne fumant pas, avec des cahiers des charges extrêmement lourds, et nous pouvons toujours fulminer nos interdictions dans le petit hexagone de 60 millions d'habitants. Ne nous faisons pas d'illusions. Le problème du droit n'est pas celui du droit interne. Le problème du droit, c'est le tourisme procréatif, puisque nous avons maintenant, nos juristes, une expression officielle. Le tourisme procréatif. Alors, vous imaginez bien qu'obtenir des normes internationales, c'est beaucoup plus difficile que d'obtenir des normes nationales. Déjà que les normes nationales, c'est pas commode sur des sujets pareils, et M. Testard, qui était là il y a une minute, le sait bien, après les lois de 94, quand il vous dit elles auraient dû être revues en 99 et on attend toujours, parce que l'accord n'arrive pas à se faire exactement sur la révision de ces lois. Alors quand en plus il faut passer des accords avec des pays internationaux, avec d'autres pays, et des accords internationaux complexes, ne nous faisons pas d'illusions, les juristes font ce qu'ils peuvent. Ben, il faut tout de même rappeler qu'historiquement, nous n'avons jamais été cantonnés à enregistrer des faits. Vous savez, on cite toujours le mot de Jean Giraudoux dans la guerre de Troie de Rapallio qui dit « Jamais poète n'a interprété la réalité avec autant d'imagination que les juristes ». Nous n'avons jamais été de purs constateurs de faits et de réalités. Depuis longtemps, nous prenons les faits et puis nous les transformons. Et la grande question que je voudrais évoquer simplement, c'est la suivante. Est-ce que ce pouvoir a disparu? Est-ce que les faits sont devenus tellement énormes, tellement faits, tellement sûrs, tellement éprouvés, que les juristes ne se bornent plus qu'à enregistrer ces faits? La science nous dit, la science a dit, comme dans Knock, le docteur a dit, le docteur a fait. Est-ce que le docteur Testard a dit, le docteur Testard a fait, mais encore quand on le voit et qu'on l'écoute, on sait bien qu'il ne fait pas partie de ces docteurs-là. Alors est-ce que nous en sommes réduits à dire, ben voilà, puisqu'on nous dit, ce qu'il faut faire, il nous reste plus, alors nous ne sommes plus, vous avez compris, des plumes à ce moment-là, faut traduire dans des textes de loi des choses qui ont été décidées ailleurs, nous ne sommes plus que des rédacteurs, des plumitifs, on pourrait remettre d'ailleurs les manches de lustrine, comme l'avaient les vieux greffiers, et puis nous serions chargés de mettre, j'allais dire en français, mais peut-être même pas, parce que la loi est même plus écrite en français depuis longtemps, elle est mal écrite et n'importe comment, alors nous serions tout simplement chargés de traduire en texte pour mettre ça dans un petit livre, ce qui est interdit est permis, mais c'est pas nous qui déciderions. Alors, c'était pas comme ça historiquement. Et on a cru en 70, puisque c'est le sujet, que ça allait devenir comme ça. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est que c'est pas du tout le cas. Et que, curieusement, plus la science est sûre, plus le pouvoir des juristes devient complexe, mais pas du tout voué à la disparition. J'axerai la démonstration sur une chose qui n'est plus du tout la procréation médicalement assistée. Je suis désolé, on va revenir à la façon de faire les enfants la plus agréable, celle qui consiste à jouer à la bête à deux dos, comme disait Shakespeare dans une de ses pièces. Hein. Je peux me référer à Shakespeare pour faire passer la formule un peu brutale. Et parce que quand même, faut pas exagérer, on nous a donné beaucoup de chiffres, mais enfin, on les fait encore très majoritairement, selon... Jean Carbonnier appelait ça les enfants d'alcôve, hein, par opposition aux enfants d'éprouvette. Alors moi, je vais vous parler seulement des enfants d'alcôve, si vous voulez bien. Les enfants d'éprouvette, nous allons les laisser ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne nous intéresse pas, mais c'est une autre conférence. Alors, pourquoi est-ce que nous avions un pouvoir de création? Nous avions un pouvoir de création et de fiction, d'ailleurs, pour deux raisons, qui ont disparu, apparemment. La première raison, c'est qu'une partie des faits nous était inconnue. Il y a des exemples célèbres. Quand la loi musulmane et le Coran appliquent la théorie de l'enfant endormi dans le sein de sa mère pour admettre des procréations incroyablement longues, des gestations de plusieurs années, quand on applique d'ailleurs dans la chrétienté ces gestations de plusieurs années pour éviter des retours de croisades difficiles et des scènes de ménage, eh bien, c'est tout simplement l'idée que les faits sont mal connus ou peu connus. On ne dit pas assez que quand le Code civil en 1804 a voulu déterminer les durées de gestation, Il a demandé une consultation à l'Académie de médecine, ce qui était très nouveau en matière législative. D'habitude, le roi et les ordonnances antérieures décidaient comme ça dans l'abstrait, la science. Bon. Et là, Fourcroy, qui était le président de l'Académie de médecine à l'époque, avait donné 176 jours et 303 jours. Et on a arrondi à 180 et 300 jours, ce qui sont toujours les chiffres du Code civil. Alors, les juristes ici travaillaient parce que la science leur fichait la paix, pardonnez-moi l'expression. La science ne sachant rien, les juristes pouvaient inventer ce qu'ils voulaient. Et je faisais référence à cette théorie du droit musulman, mais il y en a trouvé bien d'autres. Et ce sera peut-être un sujet d'étonnement de penser qu'en 1804, on croit encore qu'il ne peut pas y avoir de procréation dans un rapport à la suite d'un viol, car, dit lors de la discussion du Code civil, on exclut l'action en recherche de paternité, même en cas de viol. On ne l'admet qu'en cas d'enlèvement. Romantique cette fois. Pourquoi l'exclut-on en cas de viol? Parce que les médecins de l'époque communiquent à Portalis, qui rédige le Code civil, l'idée qu'on ne peut pas avoir, il ne peut pas y avoir de procréation pendant un viol à cause de l'horreur supportée par la jeune femme. C'est dire que la médecine de l'époque a encore quand même beaucoup de progrès à faire, et c'est d'ailleurs si vrai que 20 ou 30 ans après, il faudra modifier quand même le texte du Code civil, parce que là, il y avait une grosse erreur scientifique. Et puis, il y avait une seconde raison, et là, celle-là, elle reste plus discutée et discutable aujourd'hui. La seconde raison, c'était de dire que les juristes ne sont pas en charge de la seule constatation des faits, qu'aucune société ne peut se constituer à partir de simples faits. Les faits, c'est le désordre, d'abord. Or, toute société, c'est le contraire du désordre. Donc, s'il suffit d'additionner des faits, j'allais dire de les empiler, eh bien, on n'a pas besoin de droit, et on n'a d'ailleurs pas besoin de société. Bon, le fait, c'est fabriquer des enfants, les abandonner instantanément, puis d'ailleurs les fabriquer n'importe comment, tout ça. Alors, les juristes sont en charge d'une organisation de la société qui ne peut pas se contenter de constater des faits. Alors, entendons-nous, ils sont bien obligés de tenir compte des faits. Mais ils en tiennent compte un petit peu comme quand on fait de la chimie, on modifie les choses et à l'arrivée elles ne sont plus tout à fait semblables au début. Nous avons une façon de traduire les faits pour en faire ensuite des lois. Et jamais, on va le voir, jamais, à aucun moment, les faits ne deviennent loi et ne deviennent loi de la société. Je prends loi au sens très noble du terme, même pas juridique. Loi de la société, comme on dit les lois en général, eh bien ces faits ne deviennent jamais immédiatement, totalement et tout de suite des lois. Alors dans un premier temps, en 70, on a quand même cru, ce serait le premier point, on a cru que la biologie allait commander la société. Il y a, dans les années 70, chez les juristes, une littérature évolutionniste qui est très drôle maintenant, parce que dans les exposés précédents, alors je ne parle pas de l'exposé d'Yves Coppens, ce qui comportait même pas de l'histoire, c'est autre chose que l'histoire. Mais il n'est pas inutile quand même de voir un peu en 70 ce qu'on croyait que serait l'avenir. Et on s'aperçoit que tout le monde s'est complètement trompé d'un côté comme de l'autre. En 70, on écrit... En 70, je commence ma carrière de professeur, en 72. Alors, on écrit... D'abord, on a une nouvelle loi sur la filiation, 3 janvier 72, et on dit, voilà, ça y est, c'est réglé, je peux vous expliquer quelque chose de très simple. À partir de maintenant, il n'y aura plus que de vrais enfants avec de vraies mères et de vrais pères, car nous avons le moyen, hélas, de les déterminer. Jusque-là, depuis longtemps, la paternité légitime repose sur des... Alors, les plus optimistes disent sur une vérité statistique. Mais vérité statistique, personne ne sait jamais, justement, c'est la moyenne. Les plus pessimistes des juristes, à partir de 1902, ils sentent que la vérité statistique, c'est peut-être très dangereux, Et puis, elle ne correspond pas à certaines hypothèses de droit. Alors, on dit non, c'est pas du tout ça. Pour l'enfant légitime, c'est parce qu'au moment du mariage, le père accepte par avance tous les enfants qui naîtront de sa femme. Je vous fais remarquer que l'explication est très différente de la première. Elle est très différente de la première, c'est qu'elle donne ici au pouvoir de création juridique le plein et entier choix de la solution. C'est pas parce que la science nous dit qu'en général les enfants sont, ou la statistique est une autre forme de science mathématique cette fois, c'est parce que tout simplement l'acte de mariage étant un engagement, eh bien il s'engage à. Alors il y a quelques exceptions bien entendu que l'on connaît bien. Mais je crois qu'il faut ici bien mesurer que le débat que nous avons, il est ancien, très ancien. Sur la paternité légitime, jusqu'en dans les années 70, elle est entièrement aux mains des juristes. Elle est entièrement aux mains des juristes car il faut rappeler qu'il n'y a aucun moyen de déterminer positivement une paternité à l'époque. Je fais remarquer qu'il y a, je vais peut-être dire une bêtise médicale, mais pour l'instant c'est assez vérifié, il y a encore des choses qu'on n'arrive pas du tout à déterminer. La date exacte d'une conception, par exemple. Or, pour les juristes, ça serait très important de savoir que l'enfant que j'ai eu, je l'ai conçu le 18 janvier à 20h30. Ça peut conditionner toutes sortes de conséquences. Il n'y a pas possibilité. Dans une science pleine de pouvoir, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore tout à fait à faire. Alors, à l'époque, on règle ça avec des présomptions. On règle ça avec des présomptions et je voudrais vous ramener tout à fait sur terre pour vous montrer ensuite que les choses ne sont pas si simples que ça. Avec des présomptions, non pas d'ailleurs parce qu'on veut absolument, alors on dit maintenant oui, mais c'est parce que pesait une chape de plomb qu'on devait à l'Église catholique, au droit canonique, à tout ça. Les auteurs du Code civil d'abord sont des révolutionnaires tout de même. Donc pour eux, le droit est entièrement laïcisé, donc c'est pas l'Église catholique qui leur impose ça. Leur raisonnement, il est très différent. C'est de dire à un enfant, il faut quelqu'un qui paye pour lui. Et c'est tout. Et dans les travaux préparatoires du Code civil, ce qui revient constamment, c'est de dire, il faut quelqu'un qui paye une obligation alimentaire. C'est tout. Et ce quelqu'un, tant que la science ne nous permet pas de le déterminer, quand bien même elle nous permettrait de le déterminer, parce que c'est pas seulement les vrais pères qui payent, il y a quelquefois des faux pères qui paient mieux que les vrais. Tout le monde le sait. Bon, alors, le tout, c'est que le système juridique n'est pas là pour découvrir les vrais pères, il est là pour découvrir des débiteurs d'aliments. Vous allez voir pourquoi nous ne sommes peut-être pas sortis, parce que moi j'aime bien tout ça, ces élucubrations scientifiques, mais enfin la vie quotidienne de tous les jours, quand vous tenez des permanences à écouter les gens, les hommes et les femmes, c'est la dame qui arrive avec un gosse qui est un enfant naturel et qui dit « il veut plus payer, moi je veux le faire payer ». Elle n'a pas des problèmes scientifiques très nombreux, elle pense que c'est lui probablement, on va voir qu'il peut essayer de se défendre en démontrant que c'est un autre, mais le concret, pardonnez-moi, c'est quand même d'abord ça. Et ça, c'est pas le concret de 150 000 enfants nés in vitro. C'est le concret de millions d'enfants qui naissent tous les jours selon des procédés classiques. Alors, en 72, pour la filiation légitime, ça va profondément changer. Et on a, par la suite, constaté que là, ça n'était pas si simple que ça. Peu à peu, on a donc ouvert les contestations contre les paternités légitimes, avec le mot d'ordre que je vais vous donner, vous allez le reconnaître, dans les années 70, mieux vaut pas de père du tout qu'un faux père. Vive les vrais pères, il n'y a de pères que les vrais, et quant aux faux, les pères de décoration du Code civil, a-t-on écrit chez les juristes, les pères décoratifs, fini les pères décoratifs, on ne veut que de vrais pères. Et puis à partir de 80-85, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, c'est vrai, si dans les 3 jours de votre naissance, votre père prétendu, qui est le mari de votre mère pour l'instant, conteste la paternité, on peut se dire que. Mais si ça dure 15 ans, 20 ans, faut le laisser faire 20 ans après, comme aurait dit Alexandre Dumas, qui lui-même était enfant naturel, 20 ans après. Et là, je voudrais introduire une petite musique qui va revenir constamment. Nous sommes des êtres qui se sont inscrits dans le temps et dans la durée. Et les faits sont des faits instantanés, alors que le droit, il est fait pour la durée. Tout bêtement, parce que ça dure la vie, c'est pas un instant, et que 15 ans, 20 ans après, la vérité est peut-être trop tardive. Et nous allons voir, en passant à la paternité naturelle, que le débat actuel est exactement à contre-pied de celui des années 70. En 70, et nous allons voir que ça a eu des conséquences législatives immédiates, en 70, puis disons 70-80, se développe l'idée que ça ne sert à rien d'attraper des hommes pour les rendre pères naturels, il faut essayer d'obtenir les vrais pères, et que, ma foi, si la dame a hésité sur la paternité parce qu'elle avait plusieurs amis et qu'elle n'est plus très 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 au point dans ses comptes parce qu'elle manie mal la mathématique et les calendriers, il vaut peut-être mieux laisser s'établir la vraie paternité, fût-ce au prix d'une instabilité constante de la filiation de l'enfant. Idée d'ailleurs relayé par la science, puisque maintenant on a les moyens de l'établir. Parce qu'avant on disait, mais on va tout bloquer, parce que de toute façon on ne saura jamais lequel est le vrai. Hein. Il y a trois ou quatre prétendants, ben on prend le premier, tant pis. Hein. Le premier, puis le second, ben tant pis, il n'aura rien. Alors là on va dire, ben non, on va essayer de prendre le vrai. Mais le vrai, jusqu'à quand? Parce qu'actuellement, il y a 45% des enfants qui naissent qui sont des enfants naturels. Hein? Oui, au total en France, près de la moitié. Hein? Faut être conscient des choses. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pas propre à la France. Ces enfants naturels, s'ils naissent dans un couple stable qui va durer jusqu'à la fin, ne nous posent absolument aucun problème, ni de droit, ni de science. Personne n'ira faire d'expertise génétique pour savoir si c'est le fils de machin ou de truc. Ils sont dans la situation des enfants innombrables qui n'ont pas d'histoire, finalement. C'est-à-dire qu'ils sont heureux. Et puis, il y a les autres qui se transportent, où la mère se transporte avec armes et bagages, de copain en copain, à qui elle fait reconnaître de complaisance, parce qu'elle a de beaux yeux et un certain allant, à qui elle fait reconnaître successivement ses enfants, sans que, tenez-vous bien, et c'est de plus en plus fréquent, aucun des amants successifs ne soit le père biologique. Le père biologique, il sort de mon histoire tout de suite. Vous savez, c'est comme dans Ionesco, la cantatrice chauve, on en parle toujours, mais on ne la voit jamais, ou l'Arlésienne, vous savez, des références plus anciennes. Là, le père biologique, ce que la science nous donnerait, on ne le voit jamais, il a disparu, on est d'ailleurs incapable de le retrouver. Ce qu'on a, c'est une succession de pères plus ou moins vrais, ou plus ou moins faux, et en tout cas, généralement, quelquefois, tous faux. Ces pères-là, qu'est-ce que nous dit la science? Rien du tout. Tous sont faux. Entre les faux, vous en choisissez un ou aucun? Et le faux qui a tenu pendant 15 ans, parce que les charmes de la dame étaient encore certains, dont elle se débarrasse ou qui part au bout de 15 ans, il faut le garder dans sa paternité en lui disant « c'est fini, vous aviez signé, c'est fini », ou bien alors lui dire « eh bien oui, bah c'était pas vous finalement, vous avez bien travaillé pendant 15 ans, mais on va essayer d'en trouver un autre, puis d'ailleurs elle en a un autre à nous proposer, c'est pas non plus le vrai, hein, mais c'en est un nouveau ». Bon. Alors là, je voudrais vous faire toucher du doigt le fait que sur ces problèmes-là, encore une fois, je ne parle pas de PMA, si nous devions parler de la PMA, il faudrait, M. Glicos, une heure et demie ou deux heures de plus. Mais je vais justement parler de toute autre chose, vous le voyez. Quand on réfléchit ici, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins simples qu'on ne croyait, et que derrière le poids des faits, dont on nous rebat les oreilles, les faits. Mais on ne crée pas une société avec des faits. Toutes les sociétés ont transformé les faits pour leur donner une durée que les faits n'ont pas naturellement. Un fait n'a pas de durée naturelle. Il est forcément instantané. Or, les hommes ont besoin de durée. Il ne suffit pas de faire un enfant. Il faut encore qu'il soit élevé. C'est une donnée que la science ne doit jamais oublier. Même si l'on ne tombe pas jusqu'à Tanguy, où il exagère un peu, les petits humains ont cette particularité, au moins dans les sociétés modernes, et même depuis longtemps, de ne pas pouvoir se contenter de faits immédiats. Alors, vous le voyez, la reconstruction est ici profondément différente. Et elle montre que, science ou pas science, et on va le voir après dans d'autres domaines, elle montre que science ou pas science, les choses ne sont jamais la photographie pure et simple d'une dictature des faits, car on a parfois les juristes qui de temps en temps étaient mécontents qu'on détruise la cathédrale sur laquelle ils campaient depuis 3 siècles, depuis les Grecs et les Romains, qui disaient « mais cette science, elle nous embête, voilà que maintenant on est obligé de s'occuper de la vérité comme si c'était notre travail, alors que nous avons déjà en charge la paix sociale, si en plus il faut la vérité, alors là, on ne répond plus de rien ». La charge de la paix sociale, on vient de le voir dans la conclusion des interventions antérieures, elle est très lourde. Très, très lourde. Vous avez pu remarquer qu'aucun des scientifiques, enfin du mois dernier, l'autre n'était pas dans ce thème, mais ne peut conclure à l'intervention du législateur et comment et quoi. Là, je pense qu'il faut tout simplement constater que les juristes, je dis les juristes d'ailleurs, la société civile, c'est à la mode maintenant, ou la société juridique a un rôle particulier, elle a, ne l'oublions jamais, l'expérience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Nous savons que les sociétés qui accordent peut-être trop d'importance à la vérité et pas assez à la paix sociale courent à leur perte. Parce que ça fait longtemps que la quête de la vérité, hein, bon, elle est ancienne. Nous savons que les sociétés qui ne tiennent pas compte de la durée nécessaire d'une relation juridique courent à leur perte. On a quand même 2000 ans de droit derrière nous. Et quand je dis 2000 ans de droit, il faut remonter jusqu'au grec, c'est donc 3000 ans de droit. Hein. 3000 ans de droit pour essayer d'organiser des sociétés. Alors on me dit, oui, mais nous n'aurons jamais connu une telle révolution scientifique que celle qu'on vient de nous décrire. Allons-nous. Dans les sociétés les plus primitives, et Lévi-Strauss l'explique bien, dans les sociétés les plus primitives, on ne fait aucun rapport entre l'acte sexuel et la naissance d'un enfant. Ce sont deux choses profondément différentes. Vous avez vu d'ailleurs, tout à l'heure, on a failli y revenir. Hein, oui, la sexualité, la reproduction ou la procréation. Bon. On ne fait aucun rapport, bah parce que on s'envoie en l'air d'un côté, c'est très agréable, et de l'autre côté, de temps en temps, il y a des enfants qui naissent, on ne sait pas d'où ça vient. Le jour où l'un de ces hommes, un peu plus intelligent, ou peut-être un peu plus observateur, ou peut-être lui-même n'avait-il pas d'enfant, il se demandait pourquoi, a cherché à établir un lien entre les deux, eh bien le système juridique, car il y en avait déjà à l'époque, hein, chez Assurbanipal, 4500 ans, il y avait déjà un code, hein, eh bien les juristes ont été interpellés par une révolution scientifique considérable, c'est que la filiation n'était plus du tout fondée sur le fait qu'un enfant naissait d'une dame qui vivait, elle était fondée sur le fait que la dame avait eu des relations avec le monsieur. Vous imaginez que ça n'a pas été moins que ce que Amandine nous a apporté, ou les bébés éprouvaient, tout le reste. Alors à l'époque, eh bien, les juristes ont dû, alors on a quand même quelques indications, je vais vous raconter une petite histoire latine cette fois. Tacite est journaliste, il suit les troupes de César en Germanie, hein. Et dans le De Germania, il explique, vous allez voir qu'il est colonialiste au possible, il explique que les femmes germaines et les hommes germains pratiquent l'inceste couramment. Et il dit que tous les frères couchent avec leurs sœurs et font des enfants avec leurs sœurs. Eh bien, Tacite est un colonialiste parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris du tout. Les femmes germaines et les hommes germains, eh bien, tout simplement, sont dans la situation que je viens de décrire. Les tribus germaines que conquiert César ne font pas la relation entre la naissance d'un enfant et la copulation. Ce qui fait que quand une dame met au monde un enfant, elle n'a pas d'homme à sa disposition, puisqu'on ne sait pas quel est le père. Et le seul homme qu'elle ait à sa disposition, c'est son frère. Parce que c'est la parenté avanculaire qui va ici servir. Et son frère, qui lui-même n'a pas à élever d'enfants personnellement, puisqu'il fait des enfants avec des femmes, mais personne ne sait que c'est lui qui les fait. Eh bien, son frère va remplir le rôle de père. Et Tacite, qui n'a rien compris, ou qui du moins fait... Il est romain, hein. Donc, la civilisation romaine est très supérieure, c'est vrai d'ailleurs, par rapport aux Germains, c'est sûr. Mais il n'a rien compris, et il en déduit bêtement, dans le De Germania, hein, que, ben, finalement, c'est une population incestueuse, et vous imaginez ce qu'il en déduit. Ce sont d'horribles sauvages, heureusement qu'on les détruit tous, parce que comme ça, une population qui a élevé l'inceste au niveau d'institution, évidemment, ne peut en aucune façon être protégée. Ces gens-là, imaginons ces Germains. Il y avait des codes, hein, il y a des codes, dont le code des Visigoths, il y a des codes déjà. Quand ces gens-là, au contact des Romains, ont fini par comprendre très vite, sans doute, que quand un enfant naît, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit, mais tout simplement parce que la dame a eu des relations avec un monsieur, leur droit à eux a dû subir un séisme analogue au nôtre, peut-être pire que ça encore. Parce que c'est tout leur système de parenté qu'il fallait revoir entièrement. Les oncles sortaient de l'histoire, ils devenaient des pères. Et les pères qui s'en allaient tranquilles jusque-là ont été, bien entendu, peu à peu happés par le système. Alors vous le voyez, je crois qu'il faut ici être extrêmement prudent. Et depuis le départ, jamais, jamais, le système juridique n'a été la traduction immédiate de la biologie. Il faut d'ailleurs remarquer et parler qu'avant 70, puisque nous sommes toujours dans les années 70, à la veille de la loi de 72, qui a profondément changé les choses, à la veille de la loi de 72, se posait une question extrêmement simple, qui, vous allez le voir, avait été résolue par les juristes de façon totalement folklorique. Les enfants adultérins, nés d'un adultère, c'est-à-dire nés d'un homme marié ou d'une femme mariée avec quelqu'un d'autre, les enfants adultérins voyaient jusqu'ici leur filiation interdite. On ne pouvait pas établir la filiation adultérine. Bon, ça ne remonte qu'à 72, la possibilité de l'établir. L'inconvénient, c'est que si, par exemple, monsieur avait des relations avec une dame qui elle-même n'était pas mariée, lui était marié, je vais prendre le cas classique, messieurs, vous me pardonnerez, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, je ne prétends pas qu'il n'y ait pas d'enfants adultérins à matrer, mais tout le monde sait qu'à ce moment-là, les dames savent très bien les dissimuler si elles en ont envie. Tandis que les pères, c'est plus difficile, ils sont exportateurs, alors que les mères sont importatrices. Alors, à l'époque, c'est interdit d'établir la filiation adultérine. Il a eu un enfant avec une dame à côté. Bon. La dame, elle, n'est pas mariée. Jusque dans les années 60, la conclusion, c'est que l'enfant n'a aucune filiation, ni paternelle, ni maternelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour faire un adultère, je ne sais pas si vous savez, il faut être deux. Et le monsieur n'est pas plus adultère que la dame. La dame est complice de l'adultère, donc si vous appliquez la logique et, j'allais dire, la biologie, ce sont bien tous les deux qui ont fait forcément l'enfant, et tous les deux ont vécu une situation adultère. Alors en 60, la doctrine, depuis longtemps, depuis avant la guerre, dit « mais enfin c'est un peu injuste après tout, bon, la dame de son côté, certes elle est complice d'un adultère, c'est pas bien, en 72 c'est encore pas bien, hein. C'est pas bien, mais enfin ça serait quand même bien qu'on puisse laisser à l'enfant sa filiation de ce côté-là ». Et la Cour de cassation, dans trois grands arrêts, qui sont des arrêts d'assemblée plénière, enfin de chambre réunie à l'époque, va dire bah, « écoutez, voilà, on a le droit de fermer un œil, c'est la cécité sélective ». Nous allons faire semblant de croire que le monsieur a fait un enfant, que la dame a fait un enfant toute seule. Elle avait un enfant toute seule. Elle n'est pas complice d'un adultère. Le type, on le sort. Hein, il disparaît, là, sous la table. Et dans des grands arrêts, alors c'est ce que les juristes qui habillent bien les choses ont dit, c'est la divisibilité de la filiation. Mais ça n'existe pas, la divisibilité de la filiation. Hein, sauf peut-être à l'avenir, dans le clonage, dans ce qu'on vient de décrire. Mais ça n'existe pas. Or, ces trois grands arrêts, qui sont les arrêts Simon et Brouchen notamment, ces trois grands arrêts constituaient pour les enfants adultérins de ce pays un progrès considérable. Alors que jusque-là, ils étaient privés de filiation complètement parce qu'ils étaient adultérins. Là, on commence à dire... Et alors, ça va se développer après, dans des conditions, vous allez voir, le pouvoir de fiction des juristes devient extraordinaire. Il y avait des cas où le monsieur et la dame, qui sans doute vivaient une relation tranquille, bien que le monsieur soit marié de son côté, étaient allés jusqu'à avoir l'imprudence de déclarer l'enfant à l'état civil sous le nom du monsieur. Alors là, ça devenait difficile pour le juge, parce qu'il fallait vraiment non seulement qu'il soit aveugle de l'œil droit, mais qu'il ignore ce qu'il avait écrit sur les actes d'état civil. Imperturbable à la veille de 72 dans l'arrêt Brouchen, la Cour de cassation dit « Oui, ben même dans ces cas-là ». Et vous allez voir le raisonnement juridique de fiction, c'est de dire « Il était interdit d'établir et d'inscrire dans l'acte d'état civil une paternité adultérine, puisque c'était interdit. L'acte est nul. Et puisque l'acte est nul, ben faut pas en tenir compte. » Et comme on n'en tient pas compte, ben il n'a pas de père, donc il peut avoir une mère. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la logique juridique. Hein. Et là, tout ça est totalement en dehors de tout raisonnement biologique. Tout le monde se fiche pas mal de la biologie. Hein. Nous arrivons, dans les arrêts Simon et Brouchen, à fabriquer des enfants avec une seule personne. Vous voyez que nous avons fait ça bien avant les biologistes. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on laissait les sujets de droit faire les enfants comme ils voulaient, puis nous nous en tirions les conséquences qu'ils nous paraissaient socialement utiles. Vous m'accorderez que là, la conséquence socialement utile était évidente. Et l'un de nos collègues anciens avait écrit un article où il disait « Il est préférable quand même que le père naturel ne montre pas le bout de l'oreille ». Et sa chronique juridique s'appelait « Le bout de l'oreille », tout simplement. Voilà. Bon, pour simplifier les choses, il fallait quand même mieux ne pas inscrire l'enfant sous le nom du père adultère. Alors ceci pour vous montrer que, encore une fois, nous n'avons jamais été soumis à la dictature du fait. Et demain, si j'avais l'occasion de parler de la procréation médicalement assistée. Eh bien, nous nous sommes aperçus, nous nous apercevons que là non plus, la biologie ne nous dicte rien du tout. Je vais vous raconter une petite histoire qui embraye sur la deuxième partie et qui est en ligne droite de ce que racontait M. Testard il y a une minute, de façon fort intéressante. Quand vous faites un enfant avec une insémination artificielle avec donneur, logiquement et biologiquement, cet enfant, il est bien évident qu'il n'est ni du mari ni du concubin, si c'est un concubinage. Donc, vous pourriez en admettre que la science doit en tirer ses conséquences, c'est que le mari qui un jour changera d'avis, ou le concubin qui un jour changera d'avis, pourra désavouer cet enfant, et dire « j'en veux pas parce que c'est pas le mien ». D'ailleurs, j'ai toutes les preuves que c'est pas le mien. J'ai même pas besoin d'une expertise génétique, puisque là, j'ai même tout ce qu'il faut. Eh bien, pas du tout. La loi de 94 a décidé le contraire. Elle a décidé le contraire, ce qui fait que l'arrivée des courses est extraordinaire, les enfants dont la filiation est la plus sûre, juridiquement, sont ceux dont la filiation est biologiquement la plus douteuse. Car jamais enfant n'a une filiation aussi inattaquable qu'un enfant conçu par IAD, sauf les enfants légitimés adoptifs, enfin en adoption plénière. Et encore, si nous avions le temps, on pourrait discuter. L'enfant qui a fait l'objet d'une IAD auquel a consenti le père ou le père naturel, le mari ou le père naturel, cet enfant a une filiation totalement inattaquable. Sauf, tenez-vous bien, dit la loi de 94, si l'on arrive à prouver qu'il n'est pas né par l'IAD, mais par un adultère, parce que la dame qui sans doute en avait marre des opérations d'IAD est allée faire un enfant naturellement avec quelqu'un d'autre, ce qui me paraît être une bonne santé. Hein, en passe. Alors, oui, non, mais parce qu'il faut en devenir poète et un petit peu, quand on voit toutes ces éprouvettes. Et c'est... Alors, vous êtes là, vous le voyez, j'allais dire en plein délire créatif, mais c'est pas du délire créatif. Qu'est-ce que dit le droit là? Il dit, il a consenti, il a fait naître un enfant, il l'a fait naître. Hein, même avec un donneur, eh bien, c'est le pouvoir de création de la volonté qui fait que la biologie, tant pis pour elle. Hein. Aucun biologiste ne nous a jamais commandé cette solution, vous l'imaginez bien. Pour lui, si vous vous basez sur la biologie, il est démontré, bien évidemment, que l'enfant n'est pas l'enfant du monsieur. Et pourtant, depuis 1994, et la révision de la loi bioéthique à laquelle on est en train de travailler ne conduira pas à une solution inverse, depuis 1994, cet enfant est le roi des enfants. Hein? Si vous voulez être sûr que la filiation de votre enfant ne sera jamais contestable et contestée, faites-le faire par IAD. C'est-à-dire, finalement, ne le faites pas faire par votre mari ou votre concubin. On est là, encore une fois, dans une situation assez extraordinaire. En voulez-vous d'autres? Oui, je regarde quand même ma montre pour ne pas continuer trop longtemps. Alors, une autre. À partir des années 65-70, se pose encore un gros problème de biologie, où on va voir que les juristes font absolument ce qu'ils veulent. Et que le seul moment où ils ont cru qu'il fallait s'incliner devant la biologie, eh bien, ils ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça ne nous encourage pas à continuer à respecter la science. La question, c'est celle du transsexualisme ou du syndrome transsexuel, pour simplifier. Dans les années 60-65, se pose la question de savoir si, elle est toute simple, hein, si la personne qui se présente en disant « voilà, tout est fait pour que je change de sexe, j'ai tout fait pour changer, et puis d'ailleurs je peux pas résister, j'étais une femme, je suis devenu un homme, ou vice-versa », il faut changer mon état civil. Changer l'état civil, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Et puis d'ailleurs, on peut dire que le sexe nous est donné. Ceux qui sont contre, on va le voir, la jurisprudence, le doyen Carbonnier, par exemple, avait une jolie expression, il disait « mais si on peut changer le sexe, alors demain, la dame va venir et me dire « je me sens pas si vieille que je suis à l'état civil, retirez-moi 20 ans, hein, je prie les dames par hasard, hein, maintenant ça pourrait être les messieurs », et de dire « il y a des données, on peut pas les changer ». Alors, ça va introduire une perturbation énorme dans le système juridique et dans les tribunaux. Et tout près d'ici, puisque un des premiers tribunaux, c'est le tribunal de Libourne qui a eu à statuer sur la question. Alors, on dit oui ou on dit non? Voilà. Alors après, je passe sur des péripéties interminables et très compliquées, avec des arrêts, avec des... La même question se posait dans tous les pays européens à la même époque, hein. Et tous, ou presque tous, ont légiféré ou ont renvoyé la question à la jurisprudence. Alors nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, il y a eu, comme d'habitude, ceux qui croyaient au sexe et ceux qui n'y croyaient pas. Hein. Alors, on a vu des tribunaux pour, des tribunaux contre, des cours d'appel pour. L'âge des magistrats n'était pas sans intérêt. Hein. Les tribunaux étaient plutôt pour le changement, parce qu'ils étaient constitués de jeunes magistrats. Les cours d'appel, composés de magistrats plus rassis, étaient incontestablement contre, ce qui, à Bordeaux, provoquait d'ailleurs une hostilité certaine entre le tribunal et la cour d'appel. Alors, la discussion juridique, elle progresse comme ça. Alors, la Cour de cassation a été saisie, bien entendu. Et elle a eu une très mauvaise idée. Vous allez voir, ça nous ramène à notre sujet. Je trouve toujours l'histoire, c'est drôle pour vous la donner, même malgré l'heure tardive. La Cour de cassation a été saisie et elle a eu la très mauvaise idée de dire « je vais me référer à la science ». Ah, parce que moi, je ne peux pas, vous comprenez, je suis un pauvre petit juriste, ils ont écrit, la doctrine a écrit dans tous les sens, moi compris d'ailleurs, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, eh bien moi je vais me référer à la science, et la science c'est très simple, on ne change pas de sexe, parce que les chromosomes, vous savez, alors j'entre pas dans le détail, mais enfin, on ne peut pas changer ses chromosomes. Donc, pour moi, dit la Cour de cassation en 75, la définition du sexe est chromosomique. Et puisqu'elle est chromosomique, eh bien, je ne peux pas changer l'état civil. L'état civil, c'est l'état chromosomique de l'individu. C'était une façon de botter en touche, hein, comme on dit. Ça voulait dire, moi, je me refuse à utiliser le pouvoir qu'ont les juristes de décider. Et c'est bien commode, il y a des médecins qui ont écrit que le chromosome machin pouvait pas changer et qu'il y avait une différence chromosomique. Eh bien, vive le chromosome, on peut mettre les chromosomes dans le code civil. Raté. Complètement raté. Complètement raté pour une raison toute simple. Et vous allez voir que c'est tout à fait dans notre sujet. C'est que ces gens qui demandaient à changer de sexe se foutaient pas mal, pardonnez-moi d'être trivial, de leur chromosome. Hein ? Leur problème n'était pas biologique, il était évidemment social. Ce qui les intéressait, ce n'était pas de savoir s'ils étaient hommes ou femmes, c'était de savoir le regard que portait la société sur leur qualité d'homme ou de femme. Et quand bien même aurait-il eu plus encore de chromosomes masculins, s'ils sentaient des femmes, le problème n'était pas du tout résolu par la référence à la formule chromosomique. Et là, la Cour de cassation a fait, mais plusieurs, nous avons été plusieurs à le dire, et je ne suis pas le seul, loin de là, elle a fait une incursion malheureuse dans le domaine de la science, croyant un instant qu'elle allait enfin éviter d'avoir à se prononcer sur des questions. Vous savez, où on lui tire dessus le lendemain matin. Le lendemain, vous avez un article dans Le Monde ou dans un journal en disant « Comment ces vieux crétins de la Cour de cassation ont encore décidé ça? Ils auraient dû décider le contraire. Une assemblée fourbue de vieillards, de ceci, de cela. » On entend tout sur la Cour de cassation. Et là, elle s'était dit « Bien, c'est bien, je vais transférer la charge sur les médecins. Il n'y aura qu'à taper sur eux et sur les biologistes qui nous racontent que les chromosomes sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. » Échec. Échec qui nous a valu une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Laquelle Cour a, à mon sens, repris la question comme elle doit être prise. Les chromosomes n'ont aucune importance. Je me souviens d'avoir écrit « Qu'est-ce que ça peut faire au transsexuel qui sent une femme qu'on lui mette une étiquette en mettant « J'ai les chromosomes d'un homme ». Ça lui est totalement indifférent, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'avoir une vie privée à peu près correcte. Alors, il y a marqué sur sa carte de sécu, F1, F2, il y a marqué sur sa carte d'identité, machin, on se fout de lui quand son passeport correspond pas tout à fait à son allure, et ainsi de suite. Et puis d'ailleurs, allons plus loin, à la fin de l'histoire, il souhaite en général se marier avec quelqu'un du nouveau sexe opposé. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est toujours très compliqué, les histoires transsexualistes, mais enfin, on voit à peu près où on arrive. Hein. Et dans l'arrêt B contre France, alors l'affaire de Libourne qui a commencé, qui était l'affaire B, tout le monde connaissait l'individu, est passée devant le tribunal de Libourne qui lui a refusé. À l'époque, il était encore très refus. La Cour d'appel de Bordeaux a appliqué sa jurisprudence habituelle. La Cour de cassation, qui sentait venir les difficultés, a essayé de nuancer en disant « il y a deux sortes de transsexualisme ». Là encore, échec, vous allez le voir, en essayant de se référer à des critères scientifiques. Vous seriez séduit si je vous disais il y a deux sortes de transsexualisme. Il y a celui qu'on a voulu, on l'a fait exprès, ça c'est pas bien, on n'a pas le droit. Puis il y a celui qu'on subit, on n'y peut rien. C'est un mauvais tour du ciel s'il existe ou de la providence si le ciel n'existe pas. C'est un mauvais tour, je ne sais pas pourquoi, j'ai des choses qui se passent et je change de sexe. Bon, la distinction est scientifiquement inapplicable et elle était juridiquement encore un peu plus inapplicable. Elle nous avait été suggérée plus ou moins par, alors cette fois, une autre partie de la science, qui est la psychologie. Elle est juridiquement inapplicable parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il est impossible de distinguer entre les deux catégories. En général, l'individu en arrive à des opérations qu'il allait faire au Maroc à l'époque et qu'il peut faire maintenant en France. On arrive à des opérations parce qu'il ne supporte plus. Donc il y a préalablement, inévitablement, quelque chose qui s'est passé sur lequel nous ne savons pas grand-chose et c'est en conséquence de ça qu'il a fait. Donc la distinction entre les changements voulus et les changements non voulus a fait long feu. Et nous avons été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit « Mais voyons, qu'est-ce qui est important ? C'est de savoir quel est le sort qui est fait socialement aux transsexuels. » Alors, le gouvernement français, qui ne demande pas de culot, a fait plaider par la voix de son représentant, parce que nous sommes représentés par quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas forcément une très bonne solution, car ce sont généralement de fort mauvais juristes. Mais bon, c'est du droit étranger. Hein. Alors, elle a fait plaider, le gouvernement français, que les transsexuels en France étaient très heureux. Bon, oui, ça, évidemment. Bon. Ah. On ne les a jamais ni poursuivis, ni assassinés, ni mis ses bombes pour Hitler et ailleurs. Bon. Et puis, elle a fait plaider, là ça devenait plus douteux, que l'administration française était très respectueuse de leurs décisions et que jamais elle ne leur demandait l'indication de leur sexe. Alors là, ça devenait franchement drôle. Et je peux vous dire que la réponse de la Cour de Strasbourg a été des plus sévères. Hein. Quand on connaît l'administration française et son côté inquisiteur systématique, vous imaginez qu'il pouvait se présenter au guichet de la Sécu en disant « Je suis plus un homme, je suis une femme ». On lui dit « Quoi ? Comment ? Hein ? Apportez-nous votre acte d'état civil ». Ça n'a pas marché et nous avons donc été condamnés. Alors comme nous avons été condamnés, ben, la Cour de cassation a changé de pied. Et elle a changé de pied en disant, alors je simplifie, en disant ben, « Ce qui compte, c'est la vie réelle qu'il mène ». Et c'est là que les juristes ont un devoir lourd. Question simple, est-ce qu'il y a une raison d'ordre public et d'organisation sociale de refuser à ce monsieur ou à cette dame un changement d'état civil? Parce que si oui, eh bien on lui refuse. Si ça met en cause l'organisation de la société, l'avenir de l'humanité, ou ce que vous voulez, ou de la France, tout simplement, soyons modestes, c'était M. Coppens qui était en charge de l'avenir de l'humanité. Moi, je suis seulement en charge de la petite société française, 60 millions d'habitants. Bon, alors, est-ce que ça met en cause l'avenir de la société française? Réponse non. Hein, il y a quelques centaines, quelques milliers même, de transsexuels qui vont demander le changement d'état civil. Si on leur accorde... Est-ce que ça va induire un désordre extraordinaire? Ben, on peut répondre maintenant, parce qu'on a 20 ans de recul. Je ne pense pas que toute la France se soit transformée en transsexuelle. Les officiers d'état civil ne passent pas leur temps à inscrire en marge des jugements qui, d'ailleurs, ne sont pas inscrits en marge, mais seulement en résumé pour qu'on ne voit pas qu'il y a eu changement de sexe. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit, puisque finalement, ça ne coûte quand même pas si cher que ça à la société, que pour eux... Le refus de changer leur état civil est extrêmement lourd socialement, psychologiquement, et eh bien, accordons-le, le changement à l'état civil. Là, vous le voyez, je voulais simplement vous montrer que la dialectique entre droit et science est une dialectique beaucoup plus compliquée qu'on l'écrit dans les petites revues ou dans les articles de journaux, qui, eux, alors là, sont encore bien pires en dessous. La dialectique est beaucoup plus compliquée. C'est que le fait lui-même passe à travers une moulinette sociale qui induit d'autres jugements à l'avenir de la société. Et la procréation médicalement assistée dont on parlait il y a quelques minutes, vous avez vu que la conclusion n'est pas celle de savoir si chacun doit faire ce qu'il veut. La conclusion est celle de savoir si, en laissant chacun faire ce qu'il veut, on peut être en face d'une ambition collective. Hein ? C'est tout. Alors, voulons-nous avoir, oui ou non, une ambition collective ? Si l'addition des individus et l'addition de leurs pulsions sexuelles, de leur souhait d'avoir des enfants qui seront tous forcément les meilleurs, eh bien, tant mieux. Mais est-ce que ça fait une ambition collective et sociale ? L'organisation d'une société, c'est infiniment plus compliqué que l'addition de bébés Nobel. Ça, c'est une autre distinction et une autre discussion. Et puis, si on continue, et pour revenir à la filiation, pour finir. Quand on vient à la filiation, on s'aperçoit que là encore, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on l'avait dit au départ. S'agissant de la filiation naturelle, qui, je vous le disais, représente 50% des enfants maintenant. Pendant longtemps, alors actuellement, il n'y a plus tellement de problèmes pour rechercher les pères, parce que les enfants naturels sont majoritairement des enfants qui naissent dans des couples qui les ont voulus et qui les assument entièrement. Parmi ces enfants naturels qui naissent, plus de la moitié d'entre eux sont même reconnus avant leur naissance par leur père, en reconnaissance prénatale, ce qui est possible. Et une forte proportion d'entre eux sont reconnus dans les premiers jours de leur naissance ou dans la première année. Mais il reste encore une petite population, celle d'Alexandre Dumas, une population de jeunes femmes qui ont eu des enfants naturels avec des messieurs qui ne veulent pas les assumer. Alors, pendant très longtemps, le problème, c'était de dire comment faire une action en recherche de paternité naturelle. Ça ne se prouve pas positivement. Et immédiatement, on avait, on voit très bien à quelle école appartiennent ces remarques. Il y a dans tous les débats sur la filiation naturelle, ceux qui vont trop d'un côté et trop de l'autre. Alors ceux qui voulaient ne rien changer disaient, mais si jamais on ouvre l'action en recherche de paternité naturelle, la fille perdue du village choisira celui qui, par hypothèse, est le plus riche, qui n'est peut-être pas le père, et par crainte du chantage, il acceptera de payer. Vous avez des débats en 1912 effrayants, où la vision des mères naturelles est assez lourde. Et la loi de 1912 qui a permis l'action en recherche de paternité naturelle n'a été votée que étroitement, et à la suite d'une campagne de presse extrêmement active d'Alexandre Dumas, notamment, qui a eu d'autant plus de mérite que lui était enfant naturel, mais il avait été reconnu par son père. Donc là, c'est bien de sa part. Alors après, maintenant, nous y sommes. Ça y est, nos craintes sont terminées. Il n'y a pas d'action en recherche de paternité naturelle sans qu'on sache exactement si c'est le père ou pas. Puisque, d'ailleurs, toute action maintenant en recherche de paternité naturelle commence éventuellement par une expertise génétique. Alors donc, c'est fini. C'est tout simple. C'est tout simple, et pas du tout. Pas du tout, bien que la science nous donne maintenant des certitudes absolues. Vous savez, l'expertise génétique aboutit à quasiment 100% de sécurité. Mais pas du tout, parce qu'alors vous avez obtenu le père naturel. La dame, elle avait 18 ans, 17 ans, elle a eu un enfant rapidement. Elle est mécontente au fond qu'il est abandonné. Elle est contente de l'avoir embêté judiciairement. Elle a obtenu une paternité naturelle et une obligation alimentaire. Il va payer, ça lui fera les pieds. Mais il y a maintenant de bons esprits qui trouvent que, finalement, la dictature de la biologie n'est pas une si bonne chose. Et que cette certitude de la filiation naturelle est plus empoisonnante qu'intéressante pour nous. Bien sûr. Alors, on vous dit, oui, mais attention, vous rendez compte le progrès que ça a été. La dame, si elle vit avec le monsieur, elle est sûre que c'est le monsieur. Le monsieur est sûr que... Mais si elle vit avec le monsieur, excusez-moi, on n'a pas besoin d'expertise génétique. On a besoin d'expertise génétique quand ils ne s'aiment plus. Le droit, c'est quand les gens ne s'aiment plus. Quand ils s'aiment, allez pas voir votre notaire tous les jours et votre avocat. Alors, le problème est très mal posé. La vérité scientifique, elle n'intervient finalement que quand les gens ne s'aiment pas. Et à ce moment-là, elle peut avoir des effets beaucoup plus pervers qu'autre chose. D'où d'ailleurs cette idée de laisser l'établissement de la filiation naturelle aux mains des parents, ou de la mère qui veut agir, ou du père biologique qui veut agir, ou de l'enfant quand il deviendra majeur, mais de ne provoquer en aucun cas une filiation naturelle qui ne serait pas voulue. Nous avons, nous, une technique qui est partagée par les Belges et en partie par les Italiens d'ailleurs, qui est une technique, vous allez le voir, encore plus relative à l'égard de la science. Il y a en fait, je vais simplifier beaucoup, il y a en fait deux façons d'établir la filiation ou de la confirmer, de la conforter définitivement. Il y a une façon scientifique, c'est la filiation biologique présumée, il n'y a pas de problème en général, personne n'en parle. Et puis il y a une seconde façon qui est la possession d'État. Et alors la possession d'État, c'est une technique, quand vous essayez de l'expliquer, passer les frontières françaises, on vous regarde avec des yeux comme ça. La possession d'État, ça consiste à dire au bout d'un certain nombre d'années. Et je vais revenir à mon système juridique et à la vision du temps. Car tout ce qu'on nous dit en matière scientifique est instantané et n'intègre en aucune façon la durée voulue dans la construction d'une société. Eh bien, nous, depuis longtemps, et ça nous vient alors là du droit canonique, parce que justement, les canonistes avaient une vision du temps. Alors là, la possession d'État, ça consiste à dire, au bout d'un moment, quand un enfant a été élevé par quelqu'un, qu'il a le titre d'enfant, et qu'il a été 10, 15 ans, 20 ans, ou plusieurs années, eh bien, c'est fini. On ne peut pas revenir là-dessus. Car finalement, le lien de filiation provient non pas alors du tout de la biologie, là c'est le mépris le plus complet de la biologie, le lien de filiation, il vient de ce que, au bout d'un certain nombre d'années, il ne faut pas donner la priorité à la science, mais il faut donner la priorité à la construction de la société, à l'intérêt de l'enfant, et en fait, tout simplement à l'idée que la durée peut créer ce que la science n'avait pas créé. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne sommes pas... Les juristes ont souvent une mauvaise image, parce que... raide comme la justice, d'abord, ça commence mal. Alors que si la justice est raide, le droit est souple. En réalité, la méthodologie juridique est tout à fait pragmatique, c'est de dire aucune vérité n'est bonne si elle n'aboutit pas à la paix sociale. Et la seule chose, c'est la paix sociale. Et nous avions autour de nous, mais vous avez autour de vous, vous le savez bien, des familles où on sait bien que peut-être le petit dernier, vraiment, il ressemble pas du tout au papa. Que l'enfant, elle est revenue avec un enfant, on n'a jamais su d'où il venait. Bon, c'est pas grave. S'ils sont heureux, laissons et la science et le droit de côté. Nous ne sommes pas en charge de la vérité, vraiment pas du tout. Je crois que la grosse erreur de la société moderne, c'est de croire que toutes ces vérités sont utiles. La vérité biologique en droit, et dans le droit de la filiation plus particulièrement, mais dans le transsexualisme aussi, la vérité biologique est obligée de céder, vous le voyez, devant la seule chose qui compte, c'est tout simplement d'assurer autant que possible une vie à peu près correcte aux individus qui sont sur notre terre. Est-ce qu'on peut construire une société humaine sans qu'il y ait du hasard et du risque? Qu'est-ce qui nous retiendra à la vie si tout est sûr, tout est dit à l'avance dans l'horoscope que je lis dans le journal du dimanche? Heureusement que les horoscopes sont faux. Et heureusement que la durée échappe en partie à l'homme. Le système juridique n'a qu'un but, c'est d'assurer une certaine durée à l'homme, mais pas de prévoir la durée qu'il assume.